Et je vous invite donc à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 19. Et nous allons lire les versets 11 à 16. Apocalypse au chapitre 19, les versets 11 à 16. Et voici ce que dit la parole de Dieu. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il le juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. On se rappelle brièvement que le livre de l'Apocalypse donc, est constitué de sept visions, chacune nous décrit toute l'histoire, toute l'ère de l'Église. Et à mesure qu'on avance, on a dit que ces visions vont se focaliser de plus en plus sur la fin, sur le retour du Seigneur Jésus-Christ et le jugement. On a vu par exemple les sept sceaux, les sept trompettes, les sept coupes de la colère de Dieu. Et ils ont montré comment le Seigneur Jésus-Christ règne tout au long de l'histoire, à travers l'Évangile, il freine le mal, il avertit du jugement à venir contre ou sur le mal, et finalement il va punir et détruire le mal. Mais les visions qu'on a vues jusqu'à présent, qui sont arrivées à ce point, elles s'arrêtent juste avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Elles décrivent les événements qui annoncent et qui sont autour du retour, mais elles ne décrivent pas le retour du Seigneur Jésus-Christ. Par exemple, au chapitre 6, au verset 14, le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Ça décrit vraiment la fin de l'histoire. Et le passage montre que les méchants cherchent à se cacher de la colère de l'agneau, mais ils ne peuvent pas. Et la vision s'arrête là. Ensuite, quand on a vu la septième trompette qui retentit, les anges au ciel chantent, chapitre 11, verset 15, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. » Et puis la vision ne va pas plus loin. Chapitre 14, verset 14. Jean voit une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. On se rapproche. Il y a plus de détails. Mais la vision ne décrit pas le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ici, au chapitre 19, le retour du Seigneur Jésus-Christ est maintenant révélé. Deuxième mot sur la feuille. Le retour du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ apparaît pour renverser le mal une fois pour toutes. Jean décrit au verset 11, « Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. » Dans les visions précédentes, c'est nous qui regardions ce qui se passait dans le ciel à travers des fenêtres ou à travers des portes par lesquelles Jean pouvait entrer et voir ce qui se passait. Parfois, on regardait ce qui venait du ciel. Là, Jean nous dit que le ciel est ouvert, afin que le Seigneur Jésus-Christ et toutes ses armées viennent descendre. Il vient du ciel, le Seigneur Jésus-Christ, comme le Messie guerrier de l'Ancien Testament. Après avoir sauvé son peuple de l'esclavage en Égypte, rappelez-vous, Le Seigneur a noyé les armées de Pharaon et les a détruites. Et Moïse va chanter cela en Exode, chapitre 15, verset 3. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel, Yahvé, est son nom. Il est aussi le capitaine des armées qui est apparu à Josué quand Israël était sur le point de commencer la conquête de Canaan. Et il se tient devant Josué avec une épée à sa main, Josué 5, verset 15, et il dit « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel ». Et là, c'est une apparition du Fils de Dieu avant son incarnation. Et Josué s'incline devant lui et l'adore. Comme un chevalier qui défend sa princesse des attaques d'un dragon, Jésus, le guerrier du ciel, arrive sur un cheval blanc, une épée dans sa main pour détruire les ennemis qui voudraient attaquer son épouse. C'est intéressant de voir que ces histoires médiévales sont fortement inspirées de la Bible. Elles décrivent des passages comme celui-ci, parce que c'est la vérité. Nous connaissons ces histoires, nous connaissons ces fictions, mais cela décrit, représente la véritable histoire. Le Seigneur Jésus-Christ qui vient. Il vient sur un cheval blanc, et le cheval blanc symbolise la conquête victorieuse. Troisième mot sur la feuille. Par exemple, Jules César, après sa conquête sur la Gaule, entre dans Rome sur un cheval blanc. Ici, nous avons quelqu'un qui est bien plus grand que César. Lors de sa première venue, le Seigneur Jésus-Christ était assis sur un ânon, humblement, parce qu'il venait pour traiter le problème du péché et qu'il allait se donner, se livrer en tant que sacrifice pour le salut de son peuple. Là, il revient dans la gloire. Il revient dans la gloire pour juger et combattre avec justice. Il y a plusieurs facettes et nous voulons les voir ce matin. Tout d'abord, le premier point, la conquête victorieuse de Jésus-Christ. Et le verset, nous voyons qu'il, le verset 13 nous dit tout d'abord qu'il arrive comme un sauveur qui a déjà vaincu. Quatrième mot sur la feuille. Il a déjà vaincu. Jean le voit revêtu d'un vêtement teinté de sang. Alors bien sûr, vous pouvez imaginer, il y a un débat chez les experts à ce sujet. Est-ce que c'est le sang de ses ennemis, qu'on va voir plus tard, ou est-ce que c'est le sang que Jésus a versé sur la croix? Ici, il est préférable de voir une référence au sang que Jésus a versé sur la croix, ce sang qui lave son peuple de ses péchés. Une première raison, c'est que le Seigneur Jésus vient d'apparaître. La bataille n'a pas encore eu lieu, on le verra la prochaine fois, Dieu voulant, à la fin du chapitre. Il arrive du ciel avec un habit déjà teinté, avant même d'entrer dans la bataille contre ses ennemis. Et le verset 14 nous dit qu'il est rejoint par les armées qui sont au ciel, ces armées qui sont revêtues d'un fin lin blanc pur. Et ces armées ne sont pas seulement constituées des anges, on le verra plus loin, mais ce sont aussi les rachetés. Ils sont vêtus de blanc. Ils sont vêtus de blanc parce que leurs robes ont été lavées dans le sang de l'agneau. Et tout au long de l'histoire, et tout au long de l'Apocalypse, de ce livre, nous avons vu des passages qui soulignent que les rachetés, que l'Église a vaincu le dragon par le sang de Jésus-Christ. Ils ont vécu parce que l'agneau a été immolé. Le sang sur le vêtement du Christ, du Seigneur Jésus-Christ, nous dit un commentateur, sera toujours un rappel où la victoire a en réalité été gagnée. La victoire a été gagnée à la croix. Cinquième mot sur la feuille. La victoire a été gagnée à la croix. Quand le Seigneur Jésus-Christ est mort à Golgotha, le monde pouvait s'imaginer que voilà, c'est bon, Il l'a vaincu. Et beaucoup l'ont cru, beaucoup le croient encore aujourd'hui. Voilà, il est mort, c'est terminé. Mais comme nous avons lu dans le passage, Christ est ressuscité. Et Christ, le Seigneur Jésus-Christ, revient. Quand il reviendra, il portera les traces de ce jour, de ce moment où il a donné sa vie pour son peuple. Et un commentateur dit, Jésus ne peut plus agoniser. On ne peut plus le frapper ou lui cracher au visage. On ne peut plus briser sa chair, ni clouer son corps à une croix. Mais il porte encore les traces de sa mort en sacrifice. Et quand il revient dans la victoire et la vengeance, il revient portant le vêtement qui est marqué, qui est teint de son sang. Et la vision du sang du Seigneur Jésus-Christ nous pousse, nous, son peuple, à le louer, à l'adorer comme notre Rédempteur, comme celui qui est mort pour nous. C'est le thème de beaucoup de nos cantiques, d'ailleurs. Mais la vision de ce sang sur cet habit est une source de détresse pour ceux qui ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont vu cela, par exemple, au début de l'Apocalypse, chapitre 1 et au verset 7. Jean écrit, « Voici, il vient sur les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Parce que Jésus-Christ revient en vainqueur. Il a déjà vaincu. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a conquis par sa fidélité à l'Alliance, sixième mot sur la feuille, par son obéissance à son Père. Il s'appelle, nous dit le verset 11, fidèle et véritable. Il apparaît comme le nouvel Adam, le véritable Adam, qui reçoit les nations pour son héritage parce qu'il a accompli l'Alliance. Il a obtenu la bénédiction de l'Alliance. Paul nous dit cela dans sa lettre aux Philippiens au chapitre 2, quand il parle du Seigneur Jésus-Christ qui est apparu comme un véritable homme. Verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et en réponse à cela, Paul nous écrit, nous dit ceci, « Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Et Dieu avait annoncé cela dans le prophète Ésaïe, chapitre 53, verset 12, « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. » Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Il a été fidèle à l'Alliance et il obtient la bénédiction de l'Alliance. Mais Jésus apparaît aussi comme celui qui a conquis par sa parole. Le verset 13, Jean nous dit que son nom est la parole de Dieu. Et quand on pense à Jésus comme étant la parole de Dieu, on pense naturellement à celui qui est la révélation du Père. Et c'est ce que Jésus lui-même dit d'ailleurs en Jean 14, verset 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Jésus est la révélation parfaite du Père. Mais ici, l'accent est mis sur le fait qu'il est celui qui exécute cette parole. Huitième mot sur la feuille. Septième mot est en parole, j'ai peut-être oublié. Il est celui qui exécute. Il vient avec le droit et avec l'autorité pour accomplir la révélation de Dieu. Au chapitre 5, par exemple, rappelez-vous, nous avons eu la scène où Jean est autorisé à regarder ce qui se passe au ciel, et il voit le livre du décret de Dieu. Mais personne ne peut l'ouvrir. Personne n'est trouvé digne de l'ouvrir, si ce n'est l'agneau qui a été immolé. Et l'agneau reçoit l'autorité pour exécuter le décret éternel de la volonté de Dieu. Et à la lumière de son obéissance jusqu'à la mort, de sa justice obtenue en accomplissant l'alliance de Dieu. Il vient pour accomplir la volonté de son Père jusqu'à la fin de l'histoire. Il est ce Messie fidèle que Dieu a choisi et il a l'autorité de prononcer le jugement sur ses ennemis. Il a l'autorité à la fois pour sauver et pour juger. Un commentateur le résume en disant, en tant que parole, en tant que la parole de Dieu, le Fils est à la fois le révélateur de la pensée de Dieu et l'agent de la volonté de Dieu. Étant donné que la parole de Dieu ne faillit jamais d'accomplir ce qu'elle décrète, c'est à travers lui qui est la parole éternelle que la volonté de Dieu vient à s'accomplir. C'est à travers lui. Il y a un stratège chinois, je m'excuse pour la prononciation de son nom, mais moi je dirais Sun Tzu, il se prononce peut-être différemment, mais il a dit quelque chose comme ceci. Il dit « Un général qui entre dans une bataille en espérant obtenir la victoire est comme un commandant qui est prêt à jeter les dés. Un général qui est sage n'entre pas dans une bataille avant d'avoir déjà sécurisé la victoire. La bataille n'est que le moyen d'atteindre ce qu'il a déjà obtenu. » Et nous avons ici le plus grand des généraux, le Seigneur Jésus-Christ. Il apparaît dans le ciel pour venir à la rencontre de ses ennemis qu'il a déjà vaincus. Il a déjà remporté la victoire parce qu'il est mort sur la croix. Il a remporté la victoire par son accomplissement de l'alliance. Et la parole de Dieu qu'il porte a déjà été décrétée à la fois pour le salut de son peuple et pour le jugement des impies. Et Jésus apparaît pour cette conquête finale sur le mal. Il est assis sur le cheval blanc de la victoire, il est appelé fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Et donc nous allons voir maintenant ces détails au sujet de cette conquête du Seigneur Jésus-Christ. Deuxième point, la conquête est possible à cause de sa personne, à cause de ses attributs. Tout d'abord, le verset 11 souligne qu'il juge et combat avec justice. Neuvième mot sur la feuille. Les lecteurs du premier siècle, en particulier aujourd'hui, nous aussi d'une certaine manière, mais surtout à l'époque, au premier siècle, les lecteurs connaissaient surtout l'opposé. Ils connaissaient l'injustice des gouvernements injustes, des tyrans, des despotes qui faisaient la guerre par ambition personnelle, qui pouvaient être corrompus avec des pots de vin. Le Seigneur Jésus-Christ vient et il combat avec une justice parfaite. Et c'est important de lorsqu'on réalise que tout cela se décrit, ce qui se passe dans la cour de justice de Dieu, toute la justice est du côté de Christ. Toute la justice est du côté de Christ, tant dans sa personne, sa justice personnelle, parfaite, que dans sa condamnation juste du péché. Toute la justice est du côté de Christ. Et Satan, lui, et les siens sont condamnés. Les impies vont souffrir dans la honte de savoir que Jésus a le droit de les juger et de les condamner. Il a le droit de les juger et de les condamner. Aujourd'hui, les gens se moquent. Ils se moquent de la Bible, ils se moquent du Seigneur Jésus-Christ. Ils se moquent même de lorsqu'on leur dit que le Seigneur Jésus-Christ va les juger. Ils méprisent tout cela. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra dans la justice, ces personnes auront honte de savoir que l'épée de justice va les frapper et que cela est juste. Cela est juste. Il juge et combat avec justice. La deuxième chose qu'on peut voir, c'est qu'au verset 12, le Seigneur Jésus-Christ est décrit comme ayant des yeux comme une flamme de feu. Alors bien sûr, cette description peut être comprise de manière générale au sujet de la divinité du Seigneur Jésus-Christ, mais il me semble plutôt que cette expression, il faut la prendre pour décrire que le Seigneur Jésus possède cette vision pénétrante, dixième mot sur la feuille. C'est-à-dire qu'il est capable de voir tout ce qui est caché. Il est capable de voir tout ce qui est caché. Et là, on pense par exemple à un passage comme Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, joint et moelle. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Tout est exposé aux yeux du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à lui que nous devons tous rendre compte. C'est ce que la parole de Dieu fait déjà aujourd'hui. C'est ce que la parole de Dieu fait déjà aujourd'hui quand elle est lue, quand elle est annoncée, quand elle est prêchée, quand elle est expliquée. Parfois, le prédicateur va aborder un thème et quelqu'un va se sentir personnellement visé. Alors que le prédicateur ne connaît pas la vie privée de cette personne. Mais voilà, c'est la parole qui pénètre dans le cœur, qui parle de nous, de notre péché, de notre culpabilité devant Dieu. Elle nous transperce, rien n'est caché aux yeux de Dieu, rien n'est caché aux yeux du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai aujourd'hui, ce sera encore vrai, bien sûr, à la fin de l'histoire. Au retour du Seigneur Jésus-Christ. L'idée de penser que l'on peut cacher ses péchés devant Dieu et que l'on pourrait lui présenter une justice d'apparence, c'est une pure folie. On sait très bien le faire devant les hommes, de se faire passer pour quelqu'un que l'on n'est pas. On peut donner l'impression d'être juste, mais on ne pourra pas le faire devant le Seigneur Jésus-Christ. À son retour, il a des yeux qui transpercent toute barrière. Il juge avec une flamme de feu tous les péchés, même ceux que nous avons oubliés. Et nous avons donc besoin d'être sauvés d'un tel jugement. Et troisièmement, le verset 12 ajoute que Jésus porte un nom que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Vous pouvez imaginer qu'il y a des questions au sujet du sens de cette parole. Mais la meilleure explication, c'est qu'il y a des profondeurs dans la divinité de Christ que nous ne pouvons pas saisir. Il y a des richesses dans sa personne, dans son identité, dans ce qu'il est, que lui seul, avec le Père et l'Esprit Saint, connaissent. Il y a des ressources, onzième mot sur la feuille, des ressources dans sa personne éternelle que même ses ennemis n'ont pas prise en compte. Il y a une sagesse plus profonde au-delà de tout ce que nous pouvons comprendre. Parce qu'il est Dieu. Il est homme, mais il est aussi Dieu. Il y a sans doute ici une allusion à ce qui se passait dans le monde antique, où les magiciens affirmaient que s'ils connaissaient le vrai nom d'une personne, ils pouvaient avoir une influence, un pouvoir sur elle. Et là, Jean nous rappelle que le Seigneur Jésus-Christ est au-delà des ressources de ses ennemis. Personne ne peut l'attraper. Personne ne peut avoir de pouvoir sur lui. Et au contraire, c'est lui qui connaît les noms de ses ennemis. C'est lui qui connaît leur nombre. Et ce sont eux qui sont sous son pouvoir du jugement au dernier jour. Troisième point. Donc la conquête, nous avons dit, était possible à cause de sa personne, de ses attributs. Mais le troisième point, le premier étant la conquête, Deuxième, la conquête est possible à cause de sa personne. Troisième point, la conquête est possible à cause de son autorité. Le verset 12 nous dit tout d'abord que sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Douzième mot sur la feuille. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a deux mots pour décrire une couronne. Il y a le terme Stéphanos qui décrit la couronne de laurier, la couronne du vainqueur que nous avons déjà vu. Et il y a le terme diadema qui est le symbole de l'autorité, symbole de celui qui règne. Et c'est ce que nous avons donc ici. Mais vous allez me dire, on a déjà entendu cette expression. Et c'est le cas. Nous l'avons vu quand nous avons rencontré le dragon pour la première fois. Il est apparu avec 7 diadèmes. Il est apparu en essayant de faire croire qu'il avait l'autorité, alors que seul Jésus-Christ a autorité sur toute chose. Mais Satan, tout au long de l'histoire, essaye de faire croire cela. Il veut être adoré pour un règne, pour une autorité qu'en réalité il ne possède pas. C'est ce qu'il a recherché quand il a tenté Adam et Ève dans le jardin d'Éden, quand il a tenté le Seigneur Jésus-Christ dans le désert. Et on a vu quand la bête est apparue, elle portait 10 diadèmes sur ses cornes, Apocalypse 13, verset 1. À l'époque de Jean, les diadèmes ressemblaient beaucoup plus à des rubans qui était noué autour de la tête. Et chaque ruban représentait un territoire sur lequel le souverain régnait. On pourrait imaginer, par exemple, je dis ça parce que c'est encore valable aujourd'hui, que la reine Élisabeth II règne sur différents territoires, règne sur ce qu'on appelle le Royaume-Uni. Je dis, c'est encore valable aujourd'hui. Je ne sais pas pour combien de temps. Mais voilà, elle règne sur l'Angleterre, sur l'Écosse, le Pays de Galles, sur l'Irlande du Nord. Et on pourrait imaginer qu'elle ait plusieurs diadèmes, plusieurs de rubans, avec donc sur chacun un nom, Angleterre, Écosse, Pays de Galles, Irlande du Nord. C'est ça l'idée. Mais la liste des nations sur lesquelles règne souverainement le Seigneur Jésus-Christ est immense. Et c'est pourquoi le texte dit qu'il a plusieurs diadèmes, dans le sens de nombreux diadèmes. Certaines traductions le traduisent ainsi, parce que son règne couvre toute chose. Mais notez que Jésus ne reçoit pas la souveraineté dans ce passage. Il apparaît avec cette souveraineté. Il a reçu cette souveraineté après sa mort et sa résurrection, quand il est monté à la droite de Dieu le Père. Parce que Paul dit par exemple en Éphésiens 1, versets 21 et 22, que Dieu a fait asseoir le Seigneur Jésus-Christ au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné chef pour chef suprême à l'Église. Pas besoin de rajouter. Tous les diadèmes sont déjà sur la tête du Seigneur Jésus-Christ. Et voilà le point ici. Le Seigneur Jésus-Christ vient pour juger. Il ne vient pas pour devenir le souverain sur toute chose. Mais il vient comme celui qui possède le droit de régner sur toute chose. 13e mot sur la feuille. Il porte de nombreux diadèmes qui manifestent son autorité et sa souveraineté sur toute chose. Il vient prendre les extrémités de la terre pour possession, comme le dit un psaume, et sa justice couvrira toute la terre. Il a autorité. Il est souverain. Deuxièmement, le verset 14 parle de l'autorité du Seigneur Jésus-Christ quand il parle des armées qui étaient dans le ciel, qui le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Jésus est à la tête de cette armée, 14e mot sur la feuille. Cela inclut des, des légions d'anges. Paul le dira, par exemple, en 2 Thessaloniciens 1, verset 7, le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Mais on a aussi vu en Apocalypse, particulier 7, verset 14, la foule de ceux qui ont lavé leurs robes, qui les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Il s'agit là de l'Église, il s'agit là des saints, des croyants. Et la puissance de cette armée spirituelle se voit dans le lin pur dont ils sont habillés. Ils portent l'uniforme des sacrificateurs du ciel, sainteté à l'Éternel. Ils portent la justice de Christ qui a été imputée sur leur compte. Et le Seigneur Jésus-Christ est à la tête de cette armée. Il a cette autorité et il dirige cette armée. Mais l'autorité du Seigneur Jésus-Christ est soulignée aussi par le nom sur son vêtement et sur sa cuisse, verset 16. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. La cuisse souligne la force et le nom qui est inscrit sur son vêtement et sur sa cuisse souligne son règne suprême, 15e mot sur la feuille. Alors bien entendu, il y a d'autres rois. Mais ici, nous avons le roi des rois. Il y a d'autres seigneurs, mais nous aussi, ici, nous avons le seigneur des seigneurs. Toute autre autorité doit plier le genou devant lui. Ce nom souligne la souveraineté universelle du Seigneur Jésus-Christ dans son triomphe sur ses ennemis, nous dit un commentateur. Le Seigneur Jésus-Christ, donc, vient pour la conquête sur le mal, la conquête victorieuse. Il est qualifié dans sa personne pour juger le monde. Il possède l'autorité pour juger et punir le monde. Quatrièmement, la conquête est possible à cause de sa puissance. Il va triompher par sa puissance. Le verset 15 nous dit, de sa bouche sortait une épée aiguë, 16e mot sur la feuille. Une épée aiguë pour frapper les nations. Au chapitre 1, verset 16, nous avons vu qu'une épée à deux tranchants sort de la bouche du Seigneur Jésus-Christ quand il se présente à l'apôtre Jean. Et c'est une image de la parole de Dieu qui vient comme une arme qui est mortelle et qui sort de la bouche du Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, nous ne devons pas penser que le Seigneur Jésus vient, qu'il va sortir son épée de son fourreau et qu'il va y avoir un affrontement avec l'ennemi. Non, le texte ne dit pas ça. Ce qui est dit, c'est que l'épée de la parole est sortie et qu'il frappe immédiatement ses ennemis. Les puissances du mal sont immédiatement détruites. Et on a un parallèle avec cela en 2 Thessaloniciens 2, verset 8. Où Paul écrit, alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Le seul éclat de son avènement va écraser l'ennemi. Le souffle de sa bouche, cette parole qui sort de sa bouche, va suffire pour détruire son ennemi. Ensuite, le verset 15 nous dit qu'il les pètera avec une verge de fer. Il s'agit ici du bâton du berger, 17e mot sur la feuille. Ce bâton que le berger utilise pour protéger les brebis des prédateurs. Et Jésus va manier ce bâton de fer pour frapper, pour détruire ses ennemis. Et on a là l'accomplissement du psaume 2, verset 9. « Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » Et c'est parce que ce jugement vient que Paul explique aux croyants que nous ne devrions pas chercher à nous venger. C'est facile à dire. Parfois, on aimerait bien renvoyer l'ascenseur. Ceux qui nous font mal, on aimerait bien leur faire du mal. Mais Paul nous rappelle que la vengeance appartient à Dieu. Romains 12, le passage des versets 17 et suivants. Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et continue, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Et Paul termine en disant, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. La vengeance appartient au Seigneur. Et le Seigneur, lorsqu'il vient, lorsqu'il revient dans la gloire, il doit juger et détruire ses ennemis. Il a donné sa vie pour ses brebis, maintenant il va les conduire dans la gloire. Et pour cela, il doit détruire ses ennemis. Il doit le faire. Il va paître avec une verge de fer. Mais Jésus vient avec la puissance pour passer la fureur de la colère de Dieu sur ses ennemis. 18e mot sur la feuille. C'est le verset 15 qui nous le dit. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Et là, on a une description qui est terrible. Comme un homme qui écrase les grappes dans la cuve. Jésus, le Messie guerrier, va écraser les méchants à cause de leur méchanceté, à cause de leur péché. Bien entendu, vous pouvez imaginer qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas cette idée et vont dire « oui, mais tout cela est symbolique ». Posons la question, symbolique de quoi ? La rétribution divine va détruire les pécheurs qui ne veulent pas se repentir de leurs péchés. La conviction des impies par le Seigneur Jésus conduira à leur destruction finale, comme la destruction totale des grappes de raisin dans une cuve. Et toute la Bible avertit de ce jour terrible à venir. Toute la parole de Dieu souligne l'importance de fuir la colère de Dieu et d'être trouvé caché dans le seul médiateur, le seul sauveur qu'il a donné, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. L'arrière-plan de ce passage, c'est le chapitre 63 d'Ésaïe. Et là, dans ce passage, le Messie, le Seigneur Jésus-Christ, est présenté comme venant pour sauver et détruire. Et une première question qui est posée au chapitre 1er, qui est celui-ci qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements rouges, en habit éclatant et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. Et le Seigneur Jésus répond, c'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Voilà, le Seigneur Jésus-Christ vient pour délivrer ceux qui croient en lui, ceux qui regardent à lui, ceux qui se tournent vers lui. Mais il y a une deuxième question qui est posée. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve. Et Jésus répond, « J'ai été seul à fouler au pressoir. Nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a rejailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits. » Et ces versets montrent que lorsqu'on vient à parler du jugement, le Seigneur Jésus n'est pas une petite nature. Il n'est pas non plus quelqu'un qui se tient éloigné, qui va laisser à quelqu'un d'autre la responsabilité d'accomplir le jugement. Non. Jésus est à la fois l'agent du salut, mais aussi l'agent de la colère de Dieu. Surtout ceux qui ne sont pas cachés en Christ. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, même des croyants, sont de petite nature. Parce que cet enseignement est très anti-humaniste. Et c'est vrai. Parce que cet enseignement est centré sur Dieu. Ce qui compte, c'est Dieu. Ce que Dieu pense, ce que Dieu dit, ce que Dieu fait, ce que Dieu va faire. Nous, les humains, nous devrions nous plier le genou devant cette vérité. Ou alors la contester et la souffrir. Souffrir les réalités qui sont décrites dans ces pages. Le monde, les païens, les postmodernistes, appelez-les comme vous voulez, vont attaquer l'Église, notamment sur ce point, en disant « non, ce n'est pas juste, faut rejeter un tel enseignement. Nos enfants devraient ne pas entendre de telles choses. Quelle réponse peut-on leur donner ? La réponse, elle va à leur donner, on va leur donner en leur rappelant que ce même Seigneur qui est décrit ici comme fidèle et véritable est venu une première fois comme sauveur, 19e mot sur la feuille. Il est venu une première fois humblement, comme le sauveur compatissant, comme le sauveur miséricordieux qui a donné sa vie pour le salut de ceux qui croient en lui. Et l'invitation de croire dans le Seigneur Jésus-Christ, elle est annoncée à tous. Mais la Bible est claire, le Dieu est saint, le péché doit être puni. Et le Messie, ce Messie est venu et il a vaincu le péché pour son peuple par son sacrifice sur la croix. Et le pardon total et gratuit est offert à ceux qui viennent à lui dans la repentance et la foi. Mais si nous méprisons cette offre de salut, si nous refusons de nous humilier devant Dieu, de reconnaître notre péché, si nous voulons être notre propre Dieu, si nous refusons cette offre du salut, nous méritons et nous obtiendrons certainement la condamnation du Seigneur Jésus-Christ. Soit le jugement est prononcé sur Jésus à la croix, soit le jugement est prononcé par Jésus à son retour, sur tous ceux qui ne sont pas lavés de leur péché. Soit le jugement est prononcé sur Jésus à la croix, soit il est prononcé par Jésus. Et c'est une folie de monter sur ces grands chevaux, de vouloir juger Dieu, alors que ce passage nous dit que c'est Jésus qui monte le cheval blanc de la victoire, et que c'est lui qui va juger les âmes. Qu'est-ce que peut tirer comme application ? Essentiellement deux. La première, au lieu d'argumenter avec Dieu, avec sa parole, avec les images de la Bible qui parlent de la colère, du jugement de Dieu, nous devrions nous examiner nous-mêmes pour nous assurer que nous allons échapper à cette colère, que nous allons échapper à ce jugement. Comment ? En confessant nos péchés, en regardant à la croix du Seigneur Jésus-Christ. Cette croix où il offre le pardon à tous ceux qui viennent à lui dans la repentance et la foi. En croyant, 20e mot sur la feuille, en croyant au Seigneur Jésus-Christ. L'offre, elle est très claire. Jean 5, verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Croire au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Ne pas attendre. Aujourd'hui est un jour de grâce. Deuxième application, c'est que ce passage nous parle aussi de la puissance conquérante de la vérité. 21e mot sur la feuille. Jésus porte les noms de fidèle, de véritable, parole de Dieu. Il détruit ses ennemis par la parole qui sort de sa bouche. C'est la parole qui conquiert par la puissance de la vérité. Jésus va détruire ses ennemis par la vérité. Et si cela est vrai, nous ne devrions pas avoir peur aujourd'hui de proclamer cette vérité. Oui, le monde dans lequel nous vivons, l'époque dans laquelle nous vivons, sont hostiles. Ils préfèrent croire des mensonges. Mais nous ne devrions pas avoir honte de proclamer, d'annoncer cette vérité conquérante, cette vérité qui va éclater à la fin, et qui va détruire les ennemis. Paul nous rappelle en Éphésiens chapitre 6 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants et dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Et il en donne la liste. Les armes pour tenir ferme, pour éteindre les traits enflammés du malin, pour détruire les argumentations de ce monde. Comment ? En déclarant la vérité de la parole de Dieu. La vérité de Dieu. Le fondement de tout mal aujourd'hui est le mensonge et la tromperie. C'est l'œuvre du malin, de l'adversaire, de Satan. Nous devons combattre avec l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. 22e mot sur la feuille. Les deux mondes ne cessent de nous attaquer. Nous devons répondre avec la vérité de Jésus-Christ. Les attaques, on les retrouve aussi au sein de l'Église. Certaines doctrines ne sont pas acceptées. La doctrine de la souveraineté de Dieu, la doctrine du jugement, du péché, de la sainteté de Dieu. Notre réponse, prêcher. Prêcher la parole de Dieu. Déclarer la vérité en toute occasion, favorable ou non. Reprendre, censurer, exhorter avec toute douceur et en instruisant. 2 Timothée 4, verset 2. Prêcher et annoncer la vérité. Ézéchiel 37 est un exemple très intéressant. Dieu va déposer le prophète au milieu d'une vallée d'ossements. Il lui demande, ses os pourront-ils revivre ? Ézéchiel ne sait pas trop. Et Dieu lui dit, prophétise sur ses os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Et le verset 10 nous dit, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Si nous voulons voir une église nombreuse, pour vivre dans la justice, dans la vérité, nous devons proclamer la vérité de Jésus-Christ. Sa parole qui est la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir pour juger le monde par l'épée de sa vérité. Et il va nous juger par sa vérité. Et si nous sommes sages, si nous sommes remplis de sagesse, nous acceptons ce jugement maintenant. 23e mot sur la feuille. Nous reconnaissons à la lumière de la parole de Dieu que nous sommes coupables devant Dieu. Que nous reconnaissons notre péché. Nous nous humilions devant le Seigneur Jésus-Christ et pour recevoir le pardon dont nous avons tant besoin. Nous nous saisissons de cet évangile qui annonce le sacrifice parfait du Seigneur Jésus-Christ pour le salut de son peuple. Nous venons à lui dans la foi et nous nous laissons transformer par lui, par sa parole. Et nous le reconnaissons comme notre sauveur, notre rédempteur, notre roi. Par contre, si nous ne sommes pas sages, si nous n'avons pas cette sagesse, nous allons le mépriser. Et ce mépris va devenir notre condamnation. 24e mot sur la feuille. Aujourd'hui est un jour de grâce. Aujourd'hui est un jour de grâce. Fuyons donc la colère de Dieu. Soyons cachés en Christ. Laissons cette parole de Dieu nous juger aujourd'hui et qu'elle nous amène à Christ, afin que nous échappions à la colère de Dieu à venir, cette colère terrible, cette colère qui est juste et qui est terrible. Jésus vient, il vient en vainqueur, et tout le monde le reconnaîtra. Tout le monde le reconnaîtra, que ce soit avec joie ou que ce soit contraint et forcé. Mais tout le monde reconnaîtra que Jésus-Christ est Seigneur, à la droite de Dieu le Père. Que Dieu fasse que nous attendions ce jour avec impatience, non pas avec crainte, avec ceux qui vont devoir subir la colère de Dieu. Mais avec ceux qui sont, mais comme ceux qui sont cachés en Christ et qui savent que Christ a déjà subi la colère de Dieu à leur place. Et attendons ce jour du retour du Seigneur Jésus-Christ, où nous serons avec lui dans la gloire. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin.